Militer pour l'arbre.
Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2023.
Militer pour l'arbre, c'est plaider pour la biodiversité, la beauté, préférer aux fumées des usines la canopée. Moquer des technocrates, je suis de ces naïfs qui émeuvent le chant des oiseaux et les toilettes colorées des fleurs. La colère me gagne face au minéral qui asphyxie et uniformise notre terre. Militer pour l'arbre, c'est respecter la vie qui s'y épanouit, contempler l'oiseau qui se perche et nidifie, être du côté de l'écureuil qui y furette. Je suis de ceux qui ne sont pas béats devant le progrès, la vénérée modernité, la performance d'un moteur m'indiffère. Pourquoi toujours vouloir plus de vitesse? Militer pour l'arbre, c'est le reconnaître comme un être vivant qu'il convient de respecter et d'admirer. Il n'est pas simple morceau de bois juste bon à être marchandisé, monnayé. Je suis de ces archaïques qui s'affligent à la vue d'une tronçonneuse en action. Le saccage des forêts me navre. Militer pour l'arbre, c'est s'opposer aux esprits mécanisés et à leur obsession pour la rentabilité. Dites-moi comment sensibiliser à la nature ceux qui considèrent qu'elle doit se plier aux besoins de l'humaine prolifération. Militer pour l'arbre, c'est se heurter au cœur bétonné.
Vos collectifs respectifs et aujourd'hui, quel combat vous menez?
Oui, donc Henri Saint-Ger et mon collègue Étienne Schwartz, nous représentons le collectif de Bourgogne-Franche. Ça a été mis en place en 2020 et c'était sur le thème principalement du transport routier, enfin des camions bennes, des camions citernes, tout ce transport qui est rattaché à la plateforme de Pomac-Bazancourt. Sur la traversée de village, donc sur la D30 hein, qui traverse Bourgogne-Franche. Et sachant que nous avons une départementale qui, comme tout le réseau routier ouest de la plateforme de Pomac, date de l'après-guerre. Il n'y a jamais eu de modification, même voire au niveau sécurité, d'amélioration de ce côté ouest. Alors que du côté est, il y a la 34. Et que si on regarde géographiquement, la majorité des plaines agricoles intensives se trouvent à l'ouest, du côté de l'Aisne, et donc une grande partie transite via la D30 ou la D74, quand elle traverse Aumenancourt, Saint-Étienne et Boult.
D'accord.
Donc le réseau routier, c'était la cause principale. On voulait une amélioration, nous, de la traversée des villages. Parce que nos villages, comme je l'ai dit, ça datait de l'après-guerre. On a des villages qui n'ont, à des endroits, il n'y a pas de trottoir, à d'autres endroits, ils sont très étroits, d'autres endroits, ils sont en herbe, ou ils sont défoncés. Rares sont les endroits de la, je parle bien de la traversée de la D30, hein, je ne parle pas des rues adjacentes dans le village. Donc rares sont les trottoirs vraiment praticables. Et donc, nous n'avions aucun système de ralentisseur. Donc, on avait une ligne, c'est une grande ligne droite, je ne sais pas si vous représentez Bourgogne. Et donc, il passait à des vitesses exagérées. Donc, c'est sur ce thème, principalement, que nous sommes mis en place. Bien sûr, on a pris l'appellation de défense de l'environnement et de la qualité de vie, je ne sais plus, mais... Et puis, c'est comme ça qu'on a rejoint aussi le mouvement qui était à l'époque un collectif à Boult, dont Philippe va parler. Tout en étant, bien que nous, à l'époque, nous étions aussi tous les deux, Étienne Schwartz et moi, engagés dans la CDPN, qui s'était mise en place en 2018, contre le méthaniseur Metabase qui s'implantait à Fresnes. Donc on se connaissait déjà d'avant et donc ça a fait un melting pot aussi puisque Bourgogne et Fresnes avaient le même problème. Hein. Aussi bien de route et de proximité du méthaniseur. Et aussi par rapport à l'avenir de ce méthaniseur qui, comme il est à la limite de l'industriel, va nous ramener forcément, voilà le lien avec le transport, un nombre de camions incalculables supplémentaires.
Un flot continu.
Voilà.
Ok. Et donc votre collectif fait combien de temps qu'il existe?
Ben, depuis 2020.
D'accord.
On est dans la... On a 3 ans et demi. Quoi.
Ok. Et avez-vous déjà eu des propositions, soit de réfection de la voirie, ou même évoqué une déviation ou autre chose?
Ah ben la déviation, elle est évoquée depuis, depuis 30 ans.
D'accord.
Mais c'est resté, c'est resté dans cet état. Pour la voirie, c'est un peu différent parce qu'aux élections municipales, la municipalité a été renversée. Et la municipalité nouvelle, on peut dire que c'était une opposition à la municipalité ancienne qui, elle, comme tout, beaucoup de municipalités dans les villages, était composée d'agriculteurs et qui, à l'époque, ne prévoyait pas de faire des aménagements ou des systèmes qui ralentissent le trafic agro-industriel. Donc, avec la nouvelle municipalité, il y a, depuis un an, il y a une partie de la rue de la Libération, donc, qui est sur la D30, on va dire une moitié, qui a été aménagée avec des chicanes. Bon, c'est pas parfait, mais ça ralentit, quand il y a beaucoup de trafic, ça ralentit le trafic. Sitôt que le trafic diminue, c'est différent. Et la nuit, disons que maintenant, les camions 48 tonnes slalomment à une vitesse largement supérieure à la normalité. Mais donc il nous reste le bruit.
D'accord.
La nuit on a le bruit, le jour on a un peu moins d'insécurité.
Un camion à charge, bien.
Voilà. Oui, parce que même un camion à vide, ça fait un bruit pas possible.
Ah ben ça en fait encore
plus.
Plus
de bruit à vide que... Ouais. Et du coup, vous avez des betteraviers qui passent
les choses. Ah ben les betteraviers, oui, on peut...
Enfin, bon, c'est
en période de betterave,
chez eux,
on
chez
a
eux,
700 c'est infernal. 600 à 800 camions, on peut pas...
Par
ouais. Par jour.
Oh
ouais.
Ah, okay.
Et en plus, on a une zone de transit maintenant, parce qu'avec le GPS, tout ça, vous avez beaucoup de routiers... Qui coupent quand ils veulent rejoindre la 26, qui
ouais,
viennent de la 44. Ou que, donc ils prennent au plus court, hein, ils se comportent comme des automobilistes.
Bah, eux, le conducteur, il est pour rien, c'est le GPS qui.
Oui, oui, guide, tout à fait. Oui.
Mais c'est vrai que c'est inapproprié pour.
Mais en plus, il y avait quand même le fait que cette départementale était facile avant.
Ouais.
Donc, et on n'y voit jamais de contrôle de gendarmerie sur ces départementales.
Et sur cette portion-là, est-ce qu'il y a des commerces, des écoles ou quelque chose où c'est vraiment une ligne droite entre les maisons?
Si on parle pour Bourgogne, dans cette ligne droite, il y a une boulangerie et il y a un 8-8.
D'accord.
Qui s'est remis en place. Il avait été arrêté quelques mois. Mais par contre, tout le... les écoles, l'EHPAD, le groupe scolaire, hein, parce que c'est un groupe scolaire pour d'autres, hein.
Ouais.
L'EHPAD, les cabinets médicaux, ils sont situés au nord de cette, côté mairie, au nord de cette axe. Voilà.
Cette...
Ouais. Mais ce qui veut dire, il y a quand même une grosse population qui est au sud de cette D30, hein, et qui forcément, tous ces gens, les écoles sont là, les commerces sont sur la ligne droite, mais sont obligés de traverser cette D30 pour aller soit à l'école, pour aller au cabinet médical, ou même pour aller, si on veut, à la boulangerie, parce qu'il faut traverser la route quand même.
Ouais. Okay. Je suppose que, en plus, tout ce flot de véhicules-là n'apporte rien économiquement, ils ne s'arrêtent pas à la boulangerie, ni au salut.
Si, on en a déjà discuté, on a interrogé, on voit de temps en temps quelques camions d'arrêtés, mais je pense que majoritairement, Ces deux petits magasins profitent davantage des artisans qui travaillent localement, ouais, et qui déjeunent sur place, que des poids lourds de la, des camions bennes de la, du site de Pomac-Bavancourt. Surtout que certainement, eux, dans leur organisation, ils ont certainement un cafétéria à toute heure, et, puisqu'ils tournent à H24.
Ouais. Donc, ils marchent à la gamelle, peut-être.
Oui, après, ils sont peut-être au panier. Oui.
Peut-être qu'il peut y avoir un camion en transit qui va s'arrêter, mais je ne pense pas que ça porterait un gros préjudice.
D'accord. Ouais. Okay. Oui, sur les 600 à 700 camions, s'ils s'en arrêtent 5, je ne sais pas.
Voilà, pour un sandwich,
voilà, ouais,
pas sûr que ça va changer grand-chose. Ouais.
Merci. Du coup, on peut enchaîner.
Alors, moi, je suis Philippe Neff, vice-président de du collectif Bou Environnement. Mon président, c'est Jean-Claude Georget. Le collectif, il a été créé dans les années 2021, je pense, en réaction surtout à l'excédent de trafic dans le village. Alors, nous, on est un village en croix, c'est-à-dire qu'en fait, notre village est traversé par deux départementales, la RD74 et la RD20, route des poids lourds de betteraves. Oui. Le trafic est assez infernal, moins important qu'à Bourgogne-Fresne, il faut le reconnaître. Moi, j'étais pas inactif, mais j'étais jeune retraité. Je suis assez versé environnement depuis toujours, mais j'avais pas le temps de m'en occuper. Bon, c'est arrivé à ce moment-là, et donc j'ai été intégré, j'ai été adoubé dans le collectif, et on s'est assez rapidement transformé en association, de façon à avoir une représentation officielle.
D'accord.
Donc on travaille maintenant. Alors on s'est très très vite rapproché du collectif de Bourgogne-Fresne et puis de la CDPN, parce qu'on était déjà dans la CDPN aussi, de notre côté. Donc voilà, ça a fait un petit creuset où tout le monde essaie de travailler dans le même registre. Alors nos principales préoccupations, c'est surtout les nuisances issues du pôle. Les nuisances actuelles, alors elles sont de trois ordres. Il y a les nuisances olfactives, les odeurs. Jean-Claude Georget et moi-même, on est nés sur le site, donc on est chargé par ARD de recenser les odeurs jour après jour. Alors on a vraiment le panel d'odeurs sur le site reconnu officiellement est impressionnant. Hein. On est entre 20 et 25 odeurs. Demain, on a une formation chez ARD pour aller reconnaître les odeurs. C'est un bonheur. Mais c'est dire qu'officiellement, ils reconnaissent quand même qu'il y a toutes ces odeurs qui sont des odeurs normales, dues à l'agro-industrie. Il n'empêche que les subir, ce n'est pas forcément très drôle. Mais je veux préciser quand même que par rapport aux odeurs, il y a une amélioration considérable. Le mois de novembre, par exemple, on n'a pas fait un signalement. Donc, parce que les entreprises se bougent, donc on a un ingénieur responsable chez ARD qui gère ces problèmes d'odeur, on se réunit, on envoie tous nos retours, et je dis, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est uniquement l'amélioration des process, des bassins, etc., en tout cas il y a une amélioration considérable des odeurs. Alors il peut y avoir des odeurs de betteraves lors de vraiment la campagne betteravière, odeurs de sucre chaud ou choses comme ça qui sont peu dérangeantes par rapport aux odeurs de bassins, etc., où là c'est vraiment quelquefois terrible. Donc ce problème-là, il faut le reconnaître, il est en nette amélioration. Le deuxième problème, alors pas par ordre d'ennui, c'est le trafic routier. Trafic routier qui est vraiment intolérable, moins chez nous qu'à Bourgogne-Fresne. Et il y a une grosse amélioration aussi cette année, c'est-à-dire qu'on a nos deux départementales, l'une d'elles a été recouverte par des revêtements acoustiques. C'est un bonheur. Bonheur pour les gens qui y roulent, et bonheur pour les riverains. Donc il faut le dire quand même. Donc ils n'ont pas fait la bonne partie, parce qu'ils ont fait la rue de Saint-Roch qui va vers Fresnes, qui n'était pas la plus dégradée. La plus dégradée, c'est la route de Saint-Étienne, où là c'est vraiment avec les ridelles, le camion, c'est terrible. Il s'est prévu en 2024. Voilà, donc trafic camion.
J'ai lu sur le magazine de la Marne qu'une route près de Bavancourt avait obtenu un revêtement en matière biosourcée.
Exact. Exact. Alors, c'est pas celle-ci. Non. Celle de matériaux biosourcés, c'est devant la sucrerie. C'est un essai. Oui. C'est expérimental. Oui. Super bien aussi. super bien aussi. C'est le même résultat en fait. Hein.
Sur la Marne, hein. J'ai pas trouvé.
Ouais. C'est la route qui va du rond-point, enfin qui passe à travers la sucrerie. Résultat aussi tout à fait bien. Et leur intérêt, c'est que ce sont des produits biosourcés, non pas des produits issus de la pétrochimie.
C'est ça justement, c'est une alternative.
Mais il va falloir planter des champs pour obtenir ce bitume. Bah oui, forcément.
Donc, content de faire des plantations pour nourrir les méthaniseurs, il faut aussi
nourrir la route. Ça pourrait être un déchet. Hein. Et dernière nuisance, donc, après les odeurs et après le trafic, c'est le bruit. Alors, le bruit, c'est une nuisance qui est beaucoup plus récente. On est entre 1 et 2 ans maximum. Le bruit de fond du pôle.
Ah oui.
Du pôle. Ce bruit de fond, alors entre une cocotte minute qui est en train de. Voilà. Entre le passage d'un train, mais le passage d'un train, ça va de petit, beaucoup, et là c'est permanent.
C'est des trains de marchandises.
C'est pas des trains, c'est le pôle.
Ah oui, c'est le pôle.
C'est le bruit que ça peut nous faire imaginer.
Ça fait penser à ça, oui, d'accord.
Ce n'est pas permanent. C'est très fréquent, mais ce n'est pas permanent. Dimanche matin, par exemple, il faisait froid. Vous savez, quand il fait froid, les bruits sont réactivés. Devant chez moi, je suis à 2 km hein, du pôle. Mais bien dans la travée, il n'y a rien qui arrête le bruit. C'est vraiment infernal.
Ouais, ouais.
Donc, on est en lutte maintenant contre ce bruit, parce qu'on estime que ben, quand on vit à la campagne, on n'a peut-être pas à subir ce genre de choses-là. Ces bruits, à notre avis, ils viennent de l'évacuation des vapeurs sous pression d'un certain nombre d'usines. Donc il y a des évents. Est-ce qu'ils sont mal réglés? J'en sais rien, c'est pas notre problème. On ne sait pas quelle usine. On sait qu'il y a ADM. On pense que ARD, parce que notre ingénieur nous l'a dit. Donc voilà. Il y a aussi sûrement l'usine de Pelay, parce que forcément, quand on fait des pelets, on imagine bien qu'il y a beaucoup de vapeurs et qu'il faut bien l'éliminer. Donc on pense que chaque usine est un petit peu concernée. Et on voudrait bien, alors là je vais un peu vite en besogne, mais avant la création de la ZAC et les futures nuisances qu'on peut craindre, on voudrait réussir à régler les nuisances actuelles.
Oui, déjà, comment ?
Ça c'est notre grand cheval de bataille actuel, c'était le but de notre réunion publique, c'est de leur dire vous êtes gentils avec ce que vous nous proposez, mais on voudrait bien déjà être capable de régler les problèmes actuels avant de s'occuper des prochains, s'il y en a.
Bien sûr.
Parce que leur promesse, en fait, c'est de nous dire on va gérer les nuisances à venir. Mais, ok.
Ouais, déjà.
Mais on n'est pas convaincu. On ne peut pas être convaincu.
Moi, ce que j'avais cru aussi comprendre lors de la réunion, c'est qu'il y a apparemment des terrains disponibles encore au
Soët. Oui.
Et donc, ce que proposait le Grand Rhin, c'était l'extension de cette zone de Bazancourt et indépendamment de ces terrains libres au sol. Alors, est-ce que j'ai bien compris?
Je peux répondre pas où tu veux.
Non, vas-y, parce que tu le dis.
Alors, c'est très simple. De l'autre côté de la 34, c'est ce qu'on appelle le Bioeconomy Park. Ce Bioeconomy Park, c'est la zone qui a été réservée par le CCI il y a maintenant 15 ans. Et qui, pour l'instant, était un peu un fiasco. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été utilisé. Donc, c'est bloqué là. Et ça, c'est réservé à des activités tertiaires, logistiques, non polluantes. Pourquoi ? Parce que les maires de Île-sur-Suippe, on a les infos hein, sur tout ça, donc les maires de Île-sur-Suippe et Varmaville ont émis le souhait que ce ne soit pas industriel. Par contre, la zone par ici de la 34 est réservée au pôle industriel. Parce qu'ils sont déjà sur zone et que, ben, pour des tas de raisons évidentes, on va rester sur ce côté-là. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Un côté réservé à certains types d'activités, un autre réservé à l'industrie.
Là, si je peux rajouter, c'est-à-dire se déployer plus à l'est pour ces quelques... Combien qu'il y a de surface sur le pôle, sur le parc
65 hectares, je crois.
65 hectares. Mais enfin, après, il y a le blocage de la 34. Donc ça veut dire, pourquoi faire une extension, sachant qu'il y aura une autoroute qui va venir l'arrêter, alors que du côté ouest, c'est l'infini.
Ouais.
On peut même se dire que leur point culminant à atteindre, ça serait le méthaniseur de métabase à l'entrée de Fresnes, puisqu'ils n'ont jamais voulu le reculer. Ils avaient peut-être une bonne raison, c'était de le maintenir pour dire que ce sera la butée à l'ouest. Enfin, ouest-sud-ouest. Hein.
Ça serait une extension.
Mais Ah ben. Alors nous, on craint beaucoup, parce que là, actuellement, on nous parle d'une ZAG de quelques dizaines d'hectares qui serait maîtrisée avec des petites industries, des petites surfaces. OK. Le plan n'a pas encore été complètement défini, mais on voit bien qu'ils ont déjà des contacts par rapport à ça. Notre crainte, en admettant que ça se fasse, c'est que, ultérieurement, rien n'empêche de s'étendre. Quand on voit les terrains, moi j'ai fait les plans, je vous les montrerai si vous voulez, quand on voit qu'il y a une possibilité d'extension infinie vers l'ouest, donc vers les villages. Parce que d'un côté il y a vous, d'un côté il y a Fred de toute façon. Donc voilà, entre les deux, et puis il y a Métabase, donc entre les deux, s'ils veulent s'étendre, il n'y a aucun souci. Et la déviation qui est faite actuellement, donc la petite déviation de 2 km, dessert ces zones-là. À la limite, eux pour l'instant n'ont pas besoin d'extension de déviation. Hein. Ils peuvent s'étendre sans avoir besoin d'un projet routier dans l'immédiat.
Moi, une question que je me posais, vos collectifs respectifs regroupent combien, quel pourcentage de la population de vos villages respectifs, savoir si vous avez réussi à fédérer autour de vous, ou si une partie de la population oui, se désintéresse ou n'a pas le temps, ou n'est pas d'accord. Ça peut arriver, nous ne sommes pas d'accord avec
eux. Bien sûr.
Eh bien, puisque dernièrement, on a fait un sondage, justement, pour provoquer cette réunion du Grand Reims sur la ZAC, parce que sans ça, elle n'aurait pas eu lieu. Et on a réussi à regrouper. On était à 110, on est monté à 180, ça faisait à peu près 500, ça faisait le tiers de la population.
Okay.
Signature.
C'est quand même bien.
Ça, c'est le nombre de signatures par rapport à la pétition qui demandait la réunion publique.
D'accord.
D'accord. Sans ça, sur un plan purement collectif ou association, nous, on a 80 adhérents. On a une certaine difficulté, il faut le reconnaître, hein, à faire adhérer les gens qui peuvent nous dire en face, « Ouais, on est d'accord, allez-y, c'est bien, merci les gars. » Mais qui s'impliquent pas forcément.
Alors que nous, en tant que collectif... On n'a pas besoin de faire une ménager, on n'a pas besoin de recenser les signatures, c'est le meilleur thermomètre que l'on puisse avoir, parce que sinon tous les ans on ignore si on est toujours suivi. Quoi. C'est, ça n'a pas le même impact que la
Alors,
que la sauce. Vous étiez déjà constitué en association contre le méthaniseur.
Non, il y avait déjà une association contre le méthaniseur, c'est la CDPN. Nous, comme je le disais,
on est un peu parallèle.
Mais on travaille main dans la main. Mais on se rejoint tous sur le problème de nuisance, de l'ensemble des nuisances. Et plus principalement encore le transport, puisque le méthaniseur amène du transport supplémentaire, amène aussi au niveau de la qualité de l'air, amène au niveau de la nappe phréatique. Enfin, ça, on peut imaginer. On peut même aller plus loin sur la santé, etc.
Sans compter que c'est dangereux.
Extrêmement dangereux.
D'explosion. Oui.
Et surtout que ça va à l'encontre de la réduction des gaz à effet de serre. Parce qu'un méthaniseur, il a 5% de fuite. 5% de méthane. Le méthane coûte 25 de CO2. Oui. Quand il s'épande le digestat, il se provoque avec l'ammoniaque au contact de l'oxygène, il se provoque de l'oxyde d'azote et du protoxyde d'azote, coefficient 250 fois le CO2. Bon, c'est vrai que maintenant, ils ont mis des rampes au ras du sol de façon à ce qu'il y ait moins d'emprise, mais il y a une création de... Bon. Donc, quand on nous dit les gaz à effet de serre, on a réduit les... Grâce à la bioénergie, enfin, les méthaniseurs ont réduit les gaz à effet de serre, ils ne prennent pas en considération ces chiffres-là. Ils prennent en considération la production. Est-ce que la production aura remplacé d'énergie fossile, et c'est à partir de là qu'ils déterminent un tonnage de CO2. Et ils ne prennent pas en considération les rotations des camions, les intrants, les sortants, les tracteurs. Je veux dire, ils font totalement l'impasse sur ces chiffres, et ça c'est encore des... Ça revient au problème des scientifiques et des expériences, enfin disons, ce qui émane des pro-méthaniseurs et des gens qui sont neutres sur le sujet.
Vous pouvez répéter le pourcentage de fuite de méthane ? J'ai mal capté à ce moment-là.
5%, je crois que vous avez dit.
5%. 5% de fuite par méthaniseur. Et c'est un coût de 25.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
On peut imaginer qu'un certain nombre
baisse sous
la... Enfin, les accidents principaux, c'est par rapport à la contamination de la nappe phréatique, hein, puisqu'ils ont déjà été... Il y a des villages qui ont été alimentés pendant 6 mois en eau minérale. Enfin,
on voit quand même qu'il y a des projets qui sont retoqués, hein. Il y a des méthaniseurs qui sont des projets qui sont abandonnés.
Il y a le projet
parce qu'il y a une opposition qui se fait.
Le projet XXL vers Nantes-Saint-Nazaire, il a été retoqué dernièrement.
Alors pour revenir à la participation, quand on a fait nos pétitions par rapport à la demande de réunion publique, ça a été l'engouement. Ça a été extraordinaire. Tout le monde a signé.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le point de départ de ces pétitions? Ces pétitions étaient contre quoi, justement?
Alors, le point de départ, on voulait dénoncer un petit peu le projet de ZAC. Alors, rapidement, pour faire court, on a appris en janvier 2022 par une petite affiche de Matobren.
2023,
qu'un projet de ZAC allait être fait sur le site. Sauf qu'on partait du cycle de Pommac-le-Bazancourt, et ce projet de ZAC, c'était Pommac-le-Bazancourt-Bout-sur-Suit. Écrit noir sur blanc. Donc là, nous, c'était le tilt au démarrage. Ah, Bout-sur-Suit. Que se passe-t-il à Bout-sur-Suit? Donc, à force de trouver des renseignements, voilà, on est arrivé à... Et ça a été le début de notre mobilisation par rapport à ça. On a essayé moult fois de demander des informations à notre municipalité, Bout-sur-Suit, au Grand Reims, au directeur de cabinet de Catherine Vautrin, monsieur maire de Ménancourt, Christophe Mahuet, avec qui on a de bonnes relations, parce qu'on n'est pas fâché avec tout le monde, hein, loin de là. Mais voilà, aucune réponse. On ne nous répond pas, on ne nous dit rien. Et quand on peut avoir une once de réponse, on nous dit la... Comment on appelle ça Mince, le terme m'échappe, c'est pas grave. Les études ne sont pas assez avancées, on n'a pas encore assez d'éléments à vous fournir, donc vous inquiétez pas, on vous informera plus tard.
Est-ce que, donc, dans ZAC, si je ne me trompe pas, la dernière lettre, c'est concerné?
Mais j'avais cru comprendre ça.
Et il y a peut-être des modalités précises définissant ce qu'est la concertation. Alors, dans la réglementation.
Le problème, c'est que la concertation, personne... Enfin, nous, en tout cas, on ne sait pas qui est concerté. Et on n'a pas l'impression d'être dans les gens concertés. Donc la concertation se fait probablement en haut lieu, se fait probablement dans une espèce d'entre-soi industriel et politique, mais À part le fait d'être écrit, on va vous demander votre avis à vous, au public, en pratique, c'est pas fait. Ce n'est pas fait, ça c'est clair.
Parce que la concertation, elle doit s'effectuer aussi auprès des acteurs locaux.
Mais bien entendu, et on voit sur tous les articles qu'effectivement, il va y avoir des réunions de concertation, des trucs, des machins, réunions publiques, et il n'y en a pas. Donc on s'est trouvé devant une impossibilité de réponse.
Moi, j'ai pas... Vautrin, vous avez dit, nous nous sommes concertés avec les conseils municipaux.
Voilà.
Des différentes communes concernées.
Qui sont censées nous représenter. J'ai assisté à un conseil municipal il y a maintenant 2 mois, où je suis intervenu en fin de conseil pour poser la question, mais j'ai demandé à notre maire, à mon maire, à Bout-sur-Suip, Christian, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur la ZAC? Il m'a dit, Philippe, textuel, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, on ne me dit rien. Je lui ai dit, attends, si, Bazancourt, ils sont au courant, j'ai le papier comme quoi on l'a informé de... Voilà, parce que fin 2022, il y a eu un conseil communautaire, chaque commune a un représentant du conseil communautaire, et il a été voté le projet de loi de ZAC. Donc nos municipalités ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant, dans la mesure où ils ont voté un projet. Et quand je lui ai dit ça, je l'ai mis sous le nez, il me dit, Philippe, ce n'est qu'un projet.
Ah oui.
Les bras vous en tombent, enfin, c'est pas possible.
Donc,
on peut imaginer ça. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ben, on n'a plus de correspondants, on ne sait plus à qui. Donc, on a dit, si nous, collectifs, on fait une action de notre côté, on est fichés, hein, faut pas se leurrer, on va nous voir venir. Donc, on a dit, il faut mettre la population dans le coup, il faut avoir du monde derrière nous, de façon à représenter quelque chose. D'où l'idée de la pétition, c'est Jean-Claude Georget qui a eu l'idée. Et là, on s'y est mis. Alors là, ça a fonctionné à 100%. C'est-à-dire qu'on a les seuls refus qu'on a pu obtenir, c'est des gens qui se sentaient un peu liés au pôle d'une façon ou d'une autre et qui n'ont pas osé mettre leur signature.
Comme qui travaillaient, par exemple,
Comme si on allait chercher des signatures sur une pétition.
Il y avait le facteur temps aussi, hein, parce qu'on l'a fait sur 15 jours. On n'a pas vu toute la population.
Alors, on n'a pas vu tout, hein.
Quand vous dites qui est, c'est parce que est-ce que ce pôle va économiquement, est-ce qu'il est intéressant pour vous, est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose, ou est-ce que ça peut apporter quelque chose à des personnes résidentes déjà sur place?
Alors moi,
ça va apporter ce pôle?
Mon avis, ça ne va que nous apporter des ennuis à nous. On nous promet des emplois. On nous promet 700 à 800 emplois.
Oh, mais c'est énorme, ça.
Mais c'est quoi comme pôle? C'est un entrepôt Amazon ou...
J'explique. Actuellement, le pôle, initialement, c'est la sucrerie. Puis, c'est des entreprises adjacentes, ARD, ADM, Givaudan. Et c'est la biodistillerie Cristanol.
D'accord.
Tout cela... Et puis, il y a une zone donc, de bassin de rétention d'eau, etc. Tout cela est intimement lié par des intérêts communs et aussi par la notion d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui rentre et qui sort d'une usine va participer à l'autre. J'ai quelque part envie de dire que c'est vertueux sur un plan industriel et dans l'idée. Donc, l'extension, eh ben, tout simplement, c'est faire venir des entreprises qui ont le même... intérêt de fonctionner avec ces entreprises-là pour faire tourner de façon encore un peu plus importante et encore plus vertueuse à leurs yeux.
Et il y a des entreprises qui sont Céveso.
Alors
quoi, parce que Bazan.
Les entreprises qu'on nous a. Je continue, mais tu peux. Les entreprises qu'on nous a promis pour l'instant, lors de la réunion, ce sont des petites entreprises. Et Madame Vautrin nous a dit il n'y aura pas d'entreprises Céveso.
Oui, mais on a déjà.
Alors, le Cristanol et Céveso, 3, seuil haut. Moi, j'ai fait des recherches parce que je suis un peu fouillé, machin truc. Je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Global Bioénergie. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte-là. J'en ai parlé lors de la réunion. Madame Vautrin semblait tomber des nues.
C'est pas fait mal, j'espère.
J'espère pour elle, hein. Alors, Global Bioénergie, rapidement, je vous en touche 2 mots.
Ouais, ouais.
Global Bioénergie, c'est une boîte qui a démarré en 2015. C'est une start-up. Son président, c'est Marc Delcourt. Il a créé une molécule originale qui s'appelle l'isobutène. Cet isobutène, Voilà, si on voit ici, je vous montre vite fait le schéma de... Alors ça, ça vient de Global Bioénergie. Hein. N'importe qui peut se le procurer, c'est pas difficile. Et je vais vous la faire courte. En 2015, à Pommac, justement, dans les locaux d'ARD, ils créent cette molécule, l'isobutène, et ils se rendent compte, ils ne sont même pas tout seuls, mais qu'il a créé quelque chose d'intéressant pour plus tard. Il se développe. Et ils vont en Allemagne faire une usine un peu plus grande. Et là, de l'isobutène, ils fabriquent ce qu'on appelle le LAST. Le LAST, c'est un cosmétique de longue durée d'action qui intéresse tous les... Alors, L'Oréal, entre autres, qui est directement intimement lié. Et donc, ils fabriquent. Ensuite, ils reviennent. On revient sur le site. Là, ici, maintenant, on est chez Givaudan, toujours à Pommac. Et cette fois-ci, on en fait un peu plus en quantité. C'est-à-dire de quelques centaines de litres, on en fait quelques tonnes. Et monsieur Delcourt nous dit la chose suivante. Voilà, je vous laisse lire si vous voulez les quelques lignes là, allez-y.
Alors, les activités commerciales de l'unité de Pommacle, certes génératrices de chiffre d'affaires, mais à faible marge associée, ne sont plus prioritaires. Nous concentrons désormais tous nos efforts vers l'édification de cette usine de plus grande taille prévue pour démarrer fin 2027. Voilà.
Cette usine, c'est celle qu'on craignait nous. Alors là, on est dans le conditionnel, hein, parce que personne ne nous dit qu'elle va avoir lieu, mais on craint. Cette usine, ce serait celle-ci. Donc là, cette fois-ci, on est en 2024-2025, grande usine. Et cette fois-ci, on n'est plus sur l'isobutène à utilisation cosmétique, on est sur l'isobutène comme additif au kérosène.
Oh là,
hein. Ouais, on reste dans la production d'énergie.
Voilà, verte. Alors,
c'est
actuellement...
C'est ce que disait Madame Vautrin, parce que j'en avais tiré de la réunion... C'est qu'elle savait très bien qui allait s'implanter.
Alors, elle nous a dit qu'il y avait quelques...
Oui, mais enfin, on sentait que voilà. C'était déjà...
Donc, la crainte de cette usine-là... Alors, l'isobutène, c'est donc un additif au kérosène. Il faut savoir que les constructeurs... les utilisateurs d'avions, les compagnies aériennes, actuellement, ont une obligation de mettre 0,1% de carburant vert dans leur kérosène. À l'horizon 2050-2070, on est à 50 à 70%. Tout ça, je l'ai, hein. Donc c'est monstrueux comme marché. Marc Delcourt a compris ça. Et il s'est dit, plutôt que de faire notre cosmétique à petit rendement, l'isobutène au niveau du carburant, c'est extraordinaire. Et donc il prévoit cette grande usine ici, et il prévoit deux très grandes usines dès l'année après. Donc lui, il a flairé le truc en se disant, on va pouvoir fabriquer et se faire des sous. Et il nous dit, alors je vais vous le lire parce que c'est sur le même article en fait, hein, et il nous dit ça. Désormais, on ne parlera plus que d'un seul projet à 10 000 tonnes par an d'isobutène, fonctionnant sur la base d'un procédé, machin truc. D'ici la fin de l'année 2023, donc il va être un peu en retard, je pense, on connaîtra à la fois le montant de l'investissement, le montage financier et la localisation précise de l'usine. Marc Delcourt, cofondateur et directeur général, confirme que l'usine sera construite en France, sur une plateforme chimique existante et classée Seveso, avec un démarrage de la production prévu fin 2027. Nous, quand on a lu ça, on s'est dit, c'est pour nous. Enfin, c'est pas possible d'avoir Pommac, machin truc, et se dire, on est d'accord.
Et Mme Vautrin aussi.
Et Mme Vautrin est sûrement
pour nous.
Et là-dessus, le gouvernement lâche 16 millions d'euros pour cette usine.
Bien sûr, comme d'habitude.
Mais il y a une information qui est sortie il y a trois semaines, enfin, que j'ai lue sur Google il y a trois semaines. L'emplacement, ça peut être Pommac, mais ça peut être aussi Arcis-sur-Aube.
Ah oui.
Et au moment-là, il y a trois semaines, ouais. Ils ne savaient pas, enfin, c'est ce qui était écrit, hein.
Ah oui.
Ils ne savaient pas laquelle serait la première.
Et comme il y en aura.
Bioénergie.
Oui.
Donc peut-être à l'heure actuelle, ils le savent, parce qu'on approche de la fin de l'année. Mais.
On ne sait pas. Le problème. Désolé, on vous donne des infos parce qu'on en a quand même pas mal. Hein. Cristal Union est un truc énorme. Olivier Deban, qu'on aime bien, c'est le patron de la sucrerie, c'est le patron de Cristal Union, bon, c'est quand même... Voilà. Il est en cheville avec Marc Delcourt depuis 2015, par le biais d'une boîte qui s'appelle IBN One. C'est ce qu'ils appellent... Il y a un partenariat, en tout cas, entre les deux boîtes.
Consortium ou quelque chose comme ça.
Le terme va me revenir. Et donc, ça fait 8 ans qu'ils bossent ensemble. Et quand je lui ai parlé lors de la soirée à Olivier de Bohan en disant bah, oui, tu comprends bien quand même que c'est un de mes anciens patients, on se connaît bien. Ouais, mais bon, je ne peux pas tout dire. Voilà. C'est bien génial qu'il va tout dire. Nous, on est persuadés que ce genre d'usine peut venir chez nous. Si ce n'est pas dans la ZAC actuelle, c'est dans la prochaine. Enfin, on l'imagine, parce que lui, pour le coup, Marc Delcourt, il est, à mon avis, très intelligent, ce mec-là, il a tout compris. Hein. Il a sa sucrerie, il a sa biodistillerie, il a tous les ingrédients qu'il lui faut, il a les betteraves, il a les céréales, il a le bois, parce que donc on a des réserves de bois là-haut sur la zone qui est hyper importante. Il a tout ce qu'il faut pour fabriquer son truc.
Et il habite où, ce monsieur?
Leur site, c'est en région parisienne.
Parce que je pense que lui, il n'a pas les nuisances dues à son usine, quoi.
Probablement.
L'idée, c'était
probablement.
Ça.
C'est quelqu'un de la famille des Delcourt qui sont médecins à Reims?
Oh, j'en doute. J'en doute. Non, je pense pas.
Parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, il y a les deux frères qui sont psychiatres, ouais. Tous les deux. Mais, donc voilà, notre raisonnement, et ce qui nous a terrorisés, c'était de se dire, la ZAC, potentiellement l'installation de cette usine-là. Alors maintenant, on a depuis la réunion publique, donc c'était la cause de la demande de la réunion publique, on vient peut-être un petit peu en arrière en fonction de ce qu'on nous a dit. Mais uniquement en fonction de ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est crédible?
Justement, on vous a apporté quelle réponse lors de la réunion publique? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qui pourrait vous rassurer ou pas?
Eh bien, ce qu'on nous a dit, c'est que la ZAC, elle pouvait ne pas exister. Donc si elle n'existait pas, on aurait pu en déduire parce que cette usine créée par Marc Delcourt ne serait pas choisi. Ça serait peut-être la raison première pour que la ZAC n'existe pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe.
Moi, ce que j'en pense,
pas sûr.
C'est pas ce qui a été dit à la réunion.
Alors,
c'est à la réunion, il en est ressorti ça quand même, le plus important.
La réunion, moi, j'ai cru comprendre que c'était l'installation de petites
usines. Oui.
Petite surface, petites usines.
Là, c'est pas une petite usine. Non,
c'est énorme, c'est une bioraffinerie.
Ça n'irait pas.
Voilà.
Sauf
que la ZAC actuelle, c'est les 65 hectares, qui en reste beaucoup en direction de Beau-sur-Fibre, donc on peut imaginer que ça s'étende, et que Cristal Union est propriétaire d'un certain nombre de terrains pour lesquels la ZAC n'a pas la main.
Ah oui, non.
Donc, peut-être qu'on est un peu parano, hein, mais bon, si la ZAC, ok, mais que Cristal Union est en cheville avec Marc Delcourt, rien ne l'empêche de faire son usine à proximité de Cristal Union.
Oui, en fait, les 24 hectares, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Mais
si je veux le craindre, la ZAC, le projet de ZAC, serait un prétexte ou un cheval de Troie pour cette usine d'additifs à carbone.
Mais il n'avait même pas besoin.
On ne sait pas. Nous, on le craint. Connaissant les relations entre Cristal Union et Global Bioénergie, qui ont 8 ans, on se dit, on n'est pas amis si longtemps si on n'a pas des intérêts communs. Enfin, ouais. Et dans la mesure où tous les ingrédients sont réunis, on ne peut pas ne pas penser, ne pas craindre qu'il y ait quelque chose qui se prépare. Mais là, pour le coup, la réunion publique ne nous a pas apporté la réponse.
Surtout que quand tu vois ce projet-là, ça va dans le même sens que la méthanisation industrielle, que les parcs photovoltaïques, c'est vraiment produire de l'énergie en fait. Peu importe ce que ça coûte, peu importe.
Mais voilà, on s'en fiche.
On est dedans, en fait. Par contre, ça se met en
place. C'est du greenwashing, uniquement.
Oui.
Parce que la détérioration parallèle, on n'en tient pas compte. Ça n'a de plus haut.
Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais, mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Après tout j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et dans 3 ans c'est la retraite, je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non, pas me prendre la tête, non, non. Je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Hey, faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y'a plus que toi, dans ce bordel y'a plus que toi. Toi t'es celui qui rêve, je t'envie, j'en crève, que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qu'ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, et après, et après,
et après. Et après. Cet article-là, il a déjà.
Il a déjà. Ouais.
Le biocarburant pour avion, elle vend en poupe. Marc Delcourt. Qui dit déjà implantée à Pomac, la start-up Global Bioenergy envisage de construire une usine dans le nord-est de la France sur un site du groupe sucrier champenois Cristal Union.
Oui.
C'est clair. Alors, il n'y a pas que Cristal, il y a pas que Bazancourt, mais il y a Bazancourt.
Il y en a d'autres dans le nord-est.
Et bah donc il y a
Arcis-sur-Aube.
Bon, c'est vrai que maintenant il faudrait qu'on recherche à nouveau des informations sur. À l'heure actuelle,
sur Global Bioenergy, j'arrive pas. Je vais sur le site très régulièrement sur Global Bioenergy. On a l'impression qu'ils communiquent plus là depuis une paire de mois.
Bah, il faudrait creuser par rapport à le département de l'Aube.
Et à Arcis-sur-Aube, il n'y a pas de soulèvement où il me semble avoir vu passer.
Mais pour moi, moi je m'y connais pas assez, mais je pense qu'Arcis-sur-Aube c'est pas du tout aussi développé que Pomac-Bazancourt. Pomac-Bazancourt, c'est vraiment. Et Madame Vautrin le dit, c'est son fer de lance.
Oui,
c'est la vitrine. Mais bioéconomique du Grand Reims, c'est le poumon du Grand Reims, enfin, faut oser la formule quand même.
Mais ils ont les mêmes plaines intensives hein, quand même.
Bah, vous pouvez peut-être lui proposer d'échanger vos logements.
Ben,
vous venez habiter en centre-ville de Reims.
Moi j'ai ouvert la réunion parce que je voulais absolument lui glisser ces petites phrases mais attendez, il ne faut pas déconner quoi.
Vous avez raison parce que le jour où les gens, la population ne supportera plus, s'ils déménagent, c'est pas pour aller à la campagne, c'est pour aller en ville.
Mm-mm.
Parce qu'en ville, on vit beaucoup mieux, on est mieux protégé.
Non. On va prendre d'enrober à la ville.
Mais
ils sont pas protégés du tout.
Venez vivre chez nous.
Alors, nos craintes, je vous explique vite fait.
Alors, ici, on a Boucher-sur-Sur.
Bazancourt, la RD 74 ici, direction Fresnes, et puis la déviation qui est déjà faite. Ça, c'est le pôle. Avec les distilleries ici, Cristanol. Les terrains qui sont concernés, c'est ceux-ci. Pas tout à fait jusque-là. Hein. Voilà, c'est le long de la déviation.
Ouais.
Et nous, ce qu'on craint, c'est ça.
Ah bah ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est les bassins, rien ne les empêche de s'installer tout autour.
Mais ça passera de l'autre côté de la D74 aussi.
Bien sûr, après.
On en a entendu parler, oui. De même que sur Saint-Etienne, oui.
Alors, il va y en avoir un sur la sucrerie, il va y en avoir un sur Cristanol.
Oui, c'est ça, il va y en avoir un.
Non, il n'est pas encore en place, mais il y en a un qui est prévu. Parce qu'ils veulent faire leur propre énergie, en fait. C'est tellement vertueux que, voilà, ils vont être autonomes en eau,
Dans 2 ans, on a eu un article sur l'Union, là, il y a quelques jours, ils vont être autonomes en eau, de façon à pouvoir ainsi dire ne plus puiser beaucoup dans la nappe, enfin pas beaucoup en tout cas.
Ils
vont recycler en fait. Ils vont recycler l'eau des betteraves.
L'eau produite des betteraves. Les betteraves produisent
de l'eau. Je ne comprends pas comment ils peuvent être autonomes en eau.
C'est parce que les betteraves.
Parce que la betterave, il y a.
Elle est 70% d'eau, elle tire dans la betterave.
Ah oui, ils pressent la betterave et du coup.
Ils récupèrent dans le jus, ils récupèrent le vin, et le jus de betterave, ils le recyclent pour faire de leur eau. Dont les autres entreprises ont beaucoup besoin. C'est ça l'histoire de la vertu du système, en fait. Ouais. Enfin, ce qu'ils essayent de nous vendre.
Bah, à la limite, c'est peut-être vertueux, mais ce qu'il y a, c'est que près des habitations, il y a des nuisances.
Parce que vous avez des bassins de décantation, et pour faire de l'eau propre,
il faut enlever ce qui est
sale. Mais il ne faut pas oublier que cette eau de bassin, elle ne transpire pas que au niveau de Paul Bonnac-Besancourt. Par pipeline, ça va arroser toute la plaine. De Bourgogne-Franche.
Ah oui.
Et voir plus loin.
C'est loin.
Ça vient jusqu'à Bétheny, ça vient jusqu'à
la sortie de Bétheny à gauche. Ardennes.
Vous avez les pipelines là,
je pense qu'on est sur 30 km de rayon.
Il y a un réseau souterrain, et puis après ils mettent leur installation d'arrosage. Et s'il y a des champs de betteraves, ils sont arrosés à partir du mois de juin, juillet.
Et vous ne le voyez pas parce que c'est des plaques. C'est des plaques qui font aller 1 mètre sur 2. Ils retirent la plaque, il y a les systèmes de tuyauterie en dessous, et puis hop, ça arrose.
Ah oui,
donc
c'est
nos champs sont perforés de canalisation.
Et ça, ça sent très mauvais.
Tous les chemins, ont des canalisations en dessous. Tous. Si vous baladez en vélo dans ces coins-là, vous allez voir, vous allez tomber sur des regards très régulièrement. Et après, il y a toute la boîte, parce que c'est une boîte entière qui s'occupe des épandages. Tout ça, c'est réglé. Les mecs, ils vont sur zone la nuit, ils ouvrent les vannes, etc. etc.
Donc là, ça rentre dans le cadre des odeurs qui sont dispatchées dans tout le Finage, au nord de Reims. Alors, il y a ces autres bassins, mais il y a aussi les bouts
de
bassins.
Les bouts de ville aussi.
Mais il y a aussi les bouts de
ville. Qui nous amènent.
De ville, oui. Il y a le cocktail des deux, quoi. Alors, ça, on n'analyse jamais les cocktails. Hein.
Alors, que font-ils avec les bouts de bassins?
Ah, ben, ils les épandent. Pour eux, c'est un engrais.
C'est analysé, et on peut penser que la composition est satisfaisante pour l'épandage.
Il faut quand même rappeler que dedans, il y a tous les pesticides, les fongicides, les insecticides, les néonicotinoïdes.
Et potentiellement concentrés.
Les métabolites de chloridazole.
Oui. Ouais. Parce que ça, pour le coup, il y a des effets rémanents.
Et qu'on a une eau souveraine.
Paraît-il, oui. En dessous de Métabase, il y a la nappe qui est là, avec les points de captage du Grand Reims. Ça ne semble leur poser aucun souci.
Ça représente les 25% de l'eau que pourrait Reims.
Là, on croise les doigts pour que
c'est
pas
ça,
être.
C'est qui sait.
On pensait que ça venait du dentifrice.
Mais non. Faut arrêter. Donc voilà un peu pourquoi on s'est bougé sur ce dossier-là, parce qu'on a collecté jusqu'au moment où on s'est dit mais attends, c'est pas possible, quoi. D'abord, on nous ment, c'est une évidence. J'ai eu des informations récemment, mardi dernier, là. Vous connaissez l'histoire du territoire d'industrie. Un territoire qui est dénommé territoire d'industrie, qui va avoir des finances de la part de l'État. Non, oui, mais peut-être, mais c'est en place, là. Et il y a sur Reims le projet Reims 2030. Ces deux projets-là, territoire d'industrie et Reims 2030, complète. Les deux grands acteurs de ces projets-là, il faut un politique et il faut un industriel. Le politique, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est Catherine Vautrin. L'industriel, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est Olivier de Bohun. Ça, c'est de source officielle. Donc, ils sont intimement liés pour créer ce territoire d'industrie. En fait, le but, c'est de créer une zone entre Paris, Strasbourg, de faire vivre Reims, quoi, vivre le Grand Reims, qui risque d'être étouffé un petit peu entre les deux grandes métropoles, et par le biais de ce territoire d'industrie, de ce développement-là, d'acquérir une structure beaucoup plus importante. Ça, c'est le projet de Mme Vautrin, qu'on peut comprendre dans sa place politique. Et ce qui est en train de se faire là, c'est pas nouveau. Manifestement, elle s'est lancée dans ce projet-là en 2018, donc c'est déjà très avancé.
Mais c'est pour changer du champagne aussi.
Ah, c'est la meilleure réputation de champagne.
Je ne vois pas en quoi ce projet ferait vivre Reims. ça va pas apporter des emplois. Ils vont juste apprendre. S'ils produisent de l'énergie, ça va apporter à certaines personnes financièrement, je pense.
Oui.
Mais au grand rince,
peut-être un peu d'emploi.
Sauf au niveau de la vitrine.
Si jamais.
Au niveau de la vitrine, c'est quand même un pôle de taille actuellement européenne qui pourrait devenir un taille de pôle mondial. Et si Madame Vautrin peut se targuer dans quelques années de dire « j'ai un pôle mondial de production d'énergie verte chez moi », on peut penser quand même que sur sa carte de visite,
plus bien.
Oui, mais par contre, c'est totalement en phase avec la politique du gouvernement sur la transition énergétique. Ils respectent, ils passent outre les opposants.
Ils vivent dans un autre temps. Donc, oui. Vautrin, c'est quand on fait la politique Vautrin, faut qu'elle arrête. Et c'est d'un autre temps. Et
non,
c'est,
mais depuis Robinet et Vautrin, c'est la vitrine qui compte essentiellement.
Et elle le dit et redit sur ses articles. Hein.
Je voulais revenir sur les territoires de
Grand Rhin, ce projet vers 2030.
Ce que tu as peut-être oublié de dire, ou je ne sais plus si c'est là dont on en avait parlé. Les terres agricoles qui sont prises dans le cadre des territoires en industrie ne rentrent pas dans l'artificialisation.
Dans la ZAN.
Ils ont le droit de tout mettre
à jusqu'en 2030, La ZAN s'applique à partir de 2030.
On pourrait nous reprocher que pour la déviation, il faut 12 hectares et que c'est de l'artificialisation. Mais par contre, là, les 65 hectares, non. Après, c'est vraiment des terres agricoles.
Toutes les lois sont détournées.
Donc elle a une vision très particulière de la situation. Et nous, alors on a pris une claque là quand on a été avec la dame qui nous a informé cette semaine en disant mais attends, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce truc là, on est rien quoi. on se rend compte qu'on arrive sur des projets qui sont montés, qui sont ficelés, et nous, parce qu'on est un petit peu gêné par nos petites odeurs, on vient essayer de les embêter, mais on s'est dit
mais sur le ficelage aussi, parce que bon, on essaie de nous présenter les avantages qu'on pourrait en tirer, alors que finalement on n'a pas réglé, comme a dit Philippe tout à l'heure, toutes les nuisances consécutives depuis des décennies sur l'agrandissement de la plaque. Et on reste dans cet état. Mais là on nous dit non, avec la ZAC, et bien maintenant les industries qui vont être implantées, ils vont rentrer dans un cahier du charge qui sera géré par le Grand Reims. Et à ce moment-là, toute l'attention sera apportée sur les odeurs, sur le bruit, sur le trafic, déviation ou pas déviation, sur des circuits à vide, retour, enfin disons. Sauf qu'ils oublient de dire que le cahier des charges va être réservé aux nouvelles entreprises qui vont rentrer dans la ZAC, mais que les anciennes entreprises qui sont en dehors de la ZAC, eux ne rentrent
pas. Ils ne sont pas concernés.
Donc on aura toujours les mêmes nuisances induites par les précédents.
Le cri des arbres. Leur cri couvrirait le bruit des moteurs s'ils pouvaient crier. Ils crieraient de ne pas être respectés et abattus en masse. Ils ne crieraient pas de douleur mais d'effroi pour alerter les hommes. Il crierait que c'est grande erreur de saccager la planète. Il crierait.
Il crierait.
Il crierait.
Il crierait.
Il crierait.
Il crierait.
Leur cri couvrirait le bruit du monde s'ils pouvaient crier. Une longue lamentation pleine d'accablement à l'idée d'une terre sans forêt. Leurs cris deviendraient des hurlements, un tapage si tonitruant que quelqu'un les entendrait enfin, peut-être. Ils crieraient. Ils crieraient. Ils crieraient. Ils crieraient pour que les hommes les voient dans toute leur splendeur et cessent de les réduire en charpie sans considération. Ils crieraient de colère devant cette bêtise, alors préféraient le béton. Ils crieraient pour rappeler leur présence depuis la nuit des temps. Ils crieraient.
Ils crieraient.
Ils crieraient. Les arbres crieraient à s'en exploser les cordes vocales, si seulement ils le pouvaient.
Ils crieraient.
Ils crieraient.
Ils crieraient.